bien automatiquement. Plutôt que vous présenter chacun votre tour en présentant vos livres, je voudrais que vous le fassiez au moment où on parle, si vous avez quelque chose à dire en rapport avec vos écrits, ça sera plus sympathique peut-être de faire découvrir vos livres en répondant aux questions. Alors, est-ce que vous aimez vous faire peur et pourquoi vous aimez vous faire peur?
Je disais pourquoi croyez-vous qu'on est là pour se faire peur, évidemment.
Cette table ronde spéciale.
Là, évidemment.
La face au public, c'est quelque chose qui fait peur?
Oui, quand même un petit peu. Je pense que on est humain ou on n'est pas. Hein.
Vincent, vous aimez vous faire peur pour une raison précise ou vous aimez faire peur aux autres plutôt?
Non, j'aime me faire peur. Beaucoup, parce que c'est une des émotions les plus fortes et qu'elle est imprévisible. Il peut arriver de se dire, allez, je me fais un petit film effrayant et puis de pas être dans l'humeur où on va avoir peur, soit que le film est raté, soit que soi-même on n'est pas. Et parfois la peur surgit quand on n'attend pas. Et tout d'un coup, ouais, le cœur s'accélère, etc. C'est, la vie devient très intéressante pour aller un peu loin même. On se rend compte qu'on tient vraiment à quelqu'un une fois qu'on a eu peur une fois pour lui. Donc c'est une émotion intéressante. Voilà. Et du coup, c'est parfois ce qu'on essaye de faire quand on écrit un thriller, c'est que le lecteur s'inquiète suffisamment pour le personnage, de telle sorte qu'il tienne à lui à un moment.
Vous, c'est fait ?
Je crois que tout le monde aime se faire peur, en fait. Alors, c'est une fausse peur pour moi, puisque quand on va voir un film d'horreur ou quand on lit un thriller, alors, il y a le cœur qui s'accélère, effectivement, on peut avoir peur pour un personnage, mais on sait concrètement qu'il va rien nous arriver. Dans notre salon ou dans notre cinéma. Donc on peut se faire peur de cette façon. C'est différent de se coucher sur une voie ferrée et d'attendre que le train arrive. C'est pas la même peur, quoi. Donc là, c'est une peur quelque part, effectivement imprévisible, mais une peur artificielle ou contrôlée, quand même, quelque part. Mais je crois qu'on en a besoin. C'est pour ça que dans les cours de récré, les gamins qui se cachent et qui font boum. Tout le monde a besoin d'avoir peur, en fait, je crois.
Mina, vous aimez avoir peur, vous aimez faire peur?
Oui, absolument. Ja, absolut. Gerade weil ich es gerne selber erlebe, und zwar, wie er schon sagt, es ist eine kontrollierte Angst. Es ist etwas, das man auf kontrollierte Art durchleben kann. Es hat sehr viel auch mit Glück zu tun und mit Erleichterung, dass man das Gefühl hat, man ist befreit, weil es nicht zum Äußersten kam. Und das ist eine schöne Emotion für mich.
Nelly Le Maire, que je ne vous ai pas présenté, va traduire les propos de Mina.
Oui, de ce que je comprends, ce que le jeune en particulier, c'est une peur qui est contrôlée. C'est une peur qui a beaucoup à voir avec le plaisir de se faire peur et donner ensuite le soulagement, se sent libéré.
Lionel, hop, à peine arrivé, tout de suite questionné. est-ce que vous aimez avoir peur et est-ce que vous aimez faire peur?
D'abord, navré pour le du retard, je suis pas précédent, je sors à l'instant. Oui, effectivement. En fait, je pense que le frisson du fait de faire peur et du coup de donner peur à un lecteur, c'est le même frisson qu'on ressent par exemple face à un précipice. On sait que c'est dangereux, qu'il ne faut pas se jeter, mais c'est quand même attirant. C'est comme quand on regarde un film d'horreur, hein, vous savez, cache, oh, mon Dieu, je veux surtout voir ce qui se passe à l'écran, mais quand même, je regarde en premier doigt, parce que on ne sait jamais. Donc oui, c'est un plaisir et c'est le grand jeu de la fiction de pouvoir justement, c'est un jeu, de pouvoir se trouver dans des cadres qui sont peut-être terribles, mais on sait que c'est pas vrai, donc ça va. Mais on peut vibrer avec quand même, et comme quand on écrit, je pense qu'on a tendance à vouloir aussi recréer les mêmes, écrire d'abord le livre qu'on aurait envie de lire, et donc recréer, essayer de transmettre les sensations qu'on apprécie d'avoir en tant que lecteur ou spectateur, bah, du coup, ça va avec.
Est-ce qu'on peut dire que angoisse, parce que le titre de la table ronde c'est angoisse et suspense, moi je fais une différence entre avoir peur et être angoissé. Je sais que, enfin, vous avez tous dit qu'on aimait avoir peur, moi finalement plus le temps passe, plus j'ai lu, moins. Donc je pense que je pouvais regarder. Mais, donc voilà, c'est très personnel, mais est-ce que, et encore moins l'angoisse, je pense que c'est un truc, les choses très angoissantes et très. Voilà, alors comment vous définissez la différence entre peur et angoisse?
Je pense qu'on aime vibrer, de toute façon. Quand on lit un bouquin, c'est pas. C'est, à la base, normalement, c'est pas pour passer un moment détestable en s'ennuyant. Après, on a tous des façons de vibrer qui nous sont propres. Donc, je pense que, si je devais tenter pour essayer de répondre vaguement, l'angoisse est quelque chose d'oppressant et profondément enfermant. Alors que la peur, c'est un frisson. L'angoisse, c'est être coincé dans un ascenseur à 3h du matin. Alors que l'interphone ne marche pas, la peur, c'est d'être lancé à fond de ballon sur le disque d'obstacle en se disant est-ce que je vais me mettre dans le décor ou pas.
Oui, bien sûr. Alors, je crois que, point de vue médical, l'angoisse, c'est la peur sans cause, je crois. Comme ça, je rebondis. D'accord. Donc mon roman s'appelle Thalamus. Alors, c'est pas. Du coup, j'ai joué pas sur la peur des créatures extraterrestres ou ce genre de choses, ou surnaturelles, ou c'est la peur du médical, que je crois on a tous, tout ce qui touche à la santé, à la bioéthique, aux manipulations, au clonage, toutes ces choses-là. Donc moi, j'ai joué sur ces peurs-là. Donc c'est une toute l'intrigue est basée sur cette partie du cerveau qui s'appelle le thalamus, qui est donc la partie qui gère nos émotions, justement, et donc la peur. Par exemple, quand vous conduisez sur la route et que vous avez un camion qui vous fonce dessus, vous ne réfléchissez pas 15 ans, vous tournez le volant pour éviter le camion. Ça, c'est grâce au thalamus. Merci, thalamus. D'ailleurs, on n'a pas besoin de raisonner, de se dire bon, qu'est-ce que je fais? Non, tu tournes le volant. Donc, en fait, et donc mon personnage, qui est neurochirurgien, essaye de faire une expérience sur ce thalamus pour mieux contrôler cette partie de nous. Son but ultime, c'est justement de supprimer la peur. Supprimer le stress, supprimer les émotions négatives. Or, on a besoin de stress. La proie qui se fait poursuivre par son prédateur a besoin de stress, sinon elle ne fuit pas. Donc ça touche un petit peu à tous ces problèmes qui sont en nous, en fait. Et donc son expérience ne va pas se dérouler comme il l'avait prévu. D'où le côté thriller.
Vincent, vous qui avez vu peut-être une intervention sur cette différence entre peur et angoisse?
Oui, moi je voulais dire autre chose, ce qui était qu'en tant qu'auteur, ce qu'on a envie tous, tant que nous sommes, c'est de provoquer chez le lecteur une émotion intense, de quelque nature qu'elle soit. Or, la peur est quand même une des émotions les plus intenses, c'est ce que je disais il y a un instant. Donc, fiche une vraie bonne trouille à nos lecteurs. Je pense que là, on a le sentiment d'avoir réussi son coup. Moi, quand on me dit, j'ai pas pu dormir à la suite de la lecture d'un de vos livres, on me fait un plaisir fou parce que là, tout d'un coup, ça veut dire que cette émotion, elle a été transmise exactement comme j'avais envie qu'il le soit. Mais, et quand même, nous, si on écrit des trucs c'est aussi pour exorciser nos propres peurs et du coup c'est ce qu'on a plus profondément mis en nous et voilà, qui nous habite, c'est ça aussi qu'on fait partager aux lecteurs alors. Donc c'est pas mal ça, c'est assez agréable pour tout le monde finalement. Voilà.
Vincent, est-ce que le fait de choisir la lycanthropie par exemple, c'est pas, je vais être très désagréable, hein, c'est juste pour provoquer, parce que je pense. Est-ce que c'est pas une façon un peu facile de faire peur, de choisir le monstre, de choisir cette question?
Si, c'est facile. globalement, j'essaie de ne pas trop me compliquer la vie. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans la lycanthropie, c'est que je la traite comme une maladie psychiatrique qui existe. Il y a des centaines de personnes qui sont traitées chaque année parce qu'elles ont vécu un blackout. À la suite de leur blackout, elles sont convaincues d'avoir été des animaux. Pour le reste, les personnes qui se métamorphosent dans mes romans ne se métamorphosent pas en lycanthropes, mais en animaux, tout ce qui est plus réel. Quand ils sont des animaux, ont des soucis d'animaux, on va dire ne pas être chassés, ne pas être mangés, trouver du gibier, etc. Mais ils ne sont pas des monstres. En réalité, dans Instinct, les personnages sont tantôt humains, tantôt animaux, mais jamais monstrueux, c'est-à-dire jamais hybrides des deux. L'histoire que je raconte, c'est une histoire où il va falloir simplement gérer le moment où la métamorphose survient et gérer la dangerosité qu'on va représenter pour ceux qu'on aime. Parce que quand vous vous transformez en grizzly dans une chambre et qu'il y a d'autres gens dans cette chambre, ils sont en danger. Et quand vous vous transformez en homard, parce que j'ai un homard garou, dans une cuisine, là c'est vous qui êtes en danger. Quoi. Voilà. Et cela dit, moi je distinguerais l'angoisse de la peur et je pense que nous, comme écrivains, on n'a pas la peur dispo en stock dans les émotions qu'on peut produire. Parce que la peur, c'est une émotion instantanée, on sursaute. Il y a dans la peur une forme de surprise que l'écrit, ne serait-ce que parce qu'on a besoin du temps d'une phrase, elle n'est pas disponible. En revanche, instiller de l'angoisse, c'est possible. Instiller du suspense, c'est possible. Si je vous dis qu'il y a une bombe là au fond de la pièce et on a encore 40 minutes ensemble, on a un suspense. Est-ce qu'on va être trop bavard et qu'on va rester? Voilà. Mais je suis obligé de vous le dire. Je suis obligé de vous le dire pour créer un suspense. Ou alors simplement, je vais décrire une ambiance particulière qui va faire que petit à petit, vous allez vous dire ouais, je sais pas, je ne sais pas ce qui peut arriver. Donc là, on est plus dans le registre de l'angoisse que du suspense. Je ne sais pas ce qui peut arriver, mais je ne suis pas à l'aise. En revanche, vous faire sursauter, je pourrais essayer de le faire là au micro. En tant que conteur, ça serait une possibilité. En tant qu'écrivain, je ne peux pas le faire. Donc voilà, il faut. Et c'est ça qui est intéressant par rapport au cinéma, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens. Et donc, on va faire autre chose. On va faire autre chose à mon avis, de plus poisseux, de plus oppressant. Qui empêche davantage de dormir sur le long terme. En fait, un film peut empêcher de dormir une nuit. Nous, a priori, nos bouquins, si on essaie d'empêcher de dormir, c'est une bonne semaine. Quoi.
Pour vous, qu'est-ce que c'est la différence entre angoisse et peur?
Ist eigentlich der Zustand, der uns daran hindert, zu handeln. Und so ist es auch im Buch. Mein Buch handelt von Aberglaube. Und solange diese diffuse Angst da ist, sind die Personen wie gelähmt. Und erst wenn der Schrecken kommt, werden sie handlungsfähig. Ich glaube, das ist der Unterschied. Der Schrecken führt zu Handlung, zu Reflexen, zu Vorwärtsgehen, die Ängstlichkeit lähmt. Und diesen Bruch zu beschreiben, wann aus dem Aberglauben Schrecken wird und wann dann die Erlösung passieren kann, dadurch, dass man durch diesen Schrecken hindurchgeht, das ist so ein Thema, das man den Schrecken durchlebt.
En ce qui me concerne, je pense que l'angoisse est quelque chose de sentiment qui nous empêche d'agir, alors que la peur, l'angoisse paralyse, alors que la peur nous permet d'agir. Si nous avons peur, nous agissons plus. Et dans mon livre, c'est un peu ce qui se passe là, puisque il y a la superstition empêche, paralyse les gens du village où se passe l'action. Et à partir du moment où il faut où la peur surgit, là, il y aura une action.
Là, on a parlé de la peur du médecin, qui est une peur du quotidien, ou de la peur sur la santé, qui est une peur du quotidien. Est-ce que aller chercher des peurs plus fantastiques, c'est augmenter d'un niveau, ou c'est simplement continuer à tirer sur cette émotion qu'on partage tous et qu'on est tous capables de vivre?
À la base, de toute façon, la peur se fonde sur l'impression d'être menacé et de craindre pour soi ou pour les siens, etc. Donc, les mêmes choses ne font pas peur aux mêmes personnes. Par contre, c'est vrai qu'il y a. C'est Lovecraft qui a un grand. Enfin, qui a. Ça remonte un peu avant, mais la question de l'horreur cosmique, par exemple, qui est la définition, pour moi, le cœur de cette peur fantastique, justement, qui va au-delà, c'est-à-dire. On peut avoir peur d'un type qui nous court après dans une rue la nuit avec un grand couteau. Cette peur est très immédiate. L'horreur cosmique telle que on l'écrivait surtout Lovecraft, c'est la peur que au-delà, en dehors de notre expérience, il y ait des trucs qui soient totalement incompréhensibles et qui nous menacent à un point qui va au-delà simplement de notre vie et de notre raison. C'est juste que l'univers est tellement vaste qu'on ne peut pas le comprendre et qu'il va forcément nous oppresser. C'est la peur fantastique, pour moi, elle est là. Est-ce que c'est monté d'un cran? Je pense que ça dépend véritablement du lecteur et ça dépend de la personne à qui ça fait référence. Lovecraft dit justement qu'une des plus grandes chances de l'être humain et du cerveau humain, c'est d'être incapable de corréler et de mettre en relation tous les éléments de l'univers qui l'entoure, parce que s'il le faisait, eh bien, il deviendrait fou, ou alors il réaliserait sa petitesse, et ce serait totalement insupportable. Donc, est-ce que c'est monté d'un cran? Moi, c'est une peur qui me plaît beaucoup, parce que je la trouve véritablement vertigineuse et qui prend profondément au trip. Parce que nous sommes de toutes petites parcelles de conscience dans un univers hyper vaste et théoriquement infini. Donc déjà, rien que là, c'est un peu vertigineux. Par contre, comme toujours pour faire référence à Lovecraft, le cerveau humain n'étant pas capable de corréler le contenu de l'univers, il y a beaucoup de gens à qui ça ne parle pas. Donc il y a différentes peurs qui sont différentes en fonction du lecteur. Moi, je suis assez. L'horreur cosmique me parle beaucoup, effectivement. J'en parle beaucoup dans les bouquins.
Mais vous parlez aussi, et peut-être que. Moi, ça m'a semblé faire écho entre votre travail dans Léviathan, notamment, et le travail de Mina dans La fille du vampire. Parce que j'ai lu une phrase qui semble importante dans son livre, qui est chacun pour soi, aucun pour tous. Moi, ça me semble ça très, très effrayant, cette vision d'une société où tout d'un coup, il n'y a plus de règles sociales, où plus personne n'est là pour défendre les faibles, ou. Voilà. Ça, c'est pour moi un système de peur qui est vraiment qui va au totalitarisme. Et vous, Lionel, vous parlez d'ésotérisme. Est-ce que les choses secrètes, ça aussi, c'est pas des choses qui font peur, les choses qu'on croit ne pas savoir maîtriser ou... D'abord, Lionel, après.
Ouais, c'est vrai que je parle pas mal d'ésotérisme dans les bouquins, mais je reviens à la racine d'origine. Souvent, on dit l'ésotérisme, c'est une société secrète, etc. À la base, l'ésotérisme, c'est juste l'enseignement qui est caché. Si on retourne chez les Grecs et chez les philosophes, il y avait l'enseignement qui était ésotérique, qui était réservé à celui qui était dans le bâtiment, et celui qui était exotérique, éso intérieur et éso extérieur, ésotérique, c'était dispensé à tout le monde. Donc, moi, finalement, c'est pas tant ce secret-là, et c'est dans les livres, c'est pas forcément le fait qu'il y ait des choses secrètes, au contraire. Moi, je suis assez curieux de nature, donc c'est aller creuser ces choses-là et aller apprendre des choses, absolu, je trouve ça intéressant. Par contre, j'ai pas peur de la taupe, par exemple. Mais j'ai pas peur de la taupe autant que j'ai pas peur des marteaux. Par contre, j'ai peur du type qui va me taper dessus avec le marteau, de la même façon que j'ai peur du type qui détient le pouvoir du bouton rouge. Et l'ésotérisme à travers Léviathan, pour moi, la peur se situe largement plus il y a effectivement le fait que l'univers soit vaste et qu'il y ait des choses qui soient assez fascinantes et vertigineuses. Mais ce qui est surtout pour moi inquiétant, c'est celui qui va manier ce savoir-là et qui va s'en servir d'une façon que qui va s'apparenter largement davantage à une horreur cosmique, parce que quelque part, elle va révéler quelque chose de profondément terrifiant sur l'être humain, c'est-à-dire qu'il est capable du meilleur et du pire.
Mila, vous voulez nous parler de cette règle qui est dans votre roman sur chacun pour soi, aucun pour tous. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous semble susceptible de défrayer les gens?
Ein Thema, die Isolation des Einzelnen, dass man, also einer, geht ja in vielen Büchern auch darum, dass der Einzelne für sich steht und tatsächlich, das gefällt mir gut, das allein im Universum ist und das nicht versteht. Und auch in verschiedenen Büchern, die ich geschrieben habe, geht es immer darum, dass einer alleine fertig werden muss mit Dingen, die er nicht versteht. Manchmal in einer Welt, die 18. Jahrhundert, wo er nicht weiß, kommen die Toten zurück oder nicht, also was wird passieren nach dem Tode, oder eben wie Adam hat darauf dieses Zitat rausgenommen wurde, wo die Menschen auch hineingeworfen sind in eine Metamorphose, selber mit der sie selber klarkommen müssen.
Alors en fait, c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est ce thème. Ce que je trouve intéressant, c'est ce thème de l'isolement de l'individu, l'individu qui se trouve dans un univers qu'il ne comprend pas. Et dans mes livres, j'essaie toujours de mettre quelqu'un, de mettre mon personnage dans un monde qu'il ne comprend pas. C'est le cas par exemple dans Femme du vampire, où la jeune Yasna arrive dans un village. Où elle se sent totalement étrangère, où elle se sent totalement rejetée, et où elle ne comprend pas les règles du village. Et c'est le cas aussi dans La Nuit du Pantera, où les métamorphes se sentent aussi complètement en dehors du monde dans lequel ils évoluent.
Pour
donner une
réponse sur on
touche à un truc qui est éminemment humain, quoi. C'est le seul de l'inconnu, quoi. Et je pense que là, on touche à la racine de la peur essentielle, quoi. Donc là, voilà, toutes les autres peurs, j'en ai décliné même celle-là, quoi.
Donc plus la peur de la solitude que la peur de
la mort. Non, pas de la solitude, la peur de l'inconnu écrasant. Oui, être seul face à un inconnu qui vous dépasse. Je crois que là, ça a des échos dans tout le monde, cette peur-là. Je crois que personne n'est là. Il n'existe personne qui n'est jamais pris.
Et est-ce que c'est cette peur-là dont vous nous parlez dans ce livre?
Entre autres, il y en a d'autres, parce que il y a la peur de la mort, il y a la peur de la souffrance, il y a toutes les peurs humaines, on peut en faire un large mental. Et disons que celle-là, c'est la peur de l'enfant qui est un milieu inconnu, puisque finalement toutes les peurs partent de l'enfance. Et l'enfant dont papa et maman ne sont pas là pour tenir la main, et qui est face à quelque chose qui ne les passe. Qu'il ne peut pas appréhender parce qu'il n'a pas les clés pour les appréhender.
Moi, je trouve qu'il y a autant de peur qu'il y a de lecteurs, en exagérant un petit peu, hein, c'est ce qu'on a dit, je crois. Et je crois qu'en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, on va écrire sur les peurs qui nous font peur, enfin, sur les thèmes qui nous font peur, en fait. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui va faire un roman, je ne sais pas si c'est possible, mais sur les araignées, le lecteur arachnophobe va avoir peur, un autre, non. Donc je pense que c'est ça qui est bien aussi avec ce type de littérature, c'est la peur des autres, la peur des créatures, la peur du quotidien, la peur de... Moi, ce qui me fait peur, c'est quand j'entends les infos, quelqu'un qui, quand on entend, on fait divers, le mec qui est rentré chez lui, qui a buté toute sa famille. Moi, bah, voilà, moi ça c'est une peur, qui, c'est une de mes peurs. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un peut péter un plomb et devenir complètement quelqu'un d'autre? Donc c'est pour ça que je me suis penché sur le cerveau, du coup. Et voilà, la peur de la mort, de la société future. Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur les dystopies, donc ces univers futurs qu'on fait de l'utopie. Donc voilà, donc je crois que le thème de la peur, c'est quand même très très mal.
Est-ce que votre famille doit avoir peur à un moment où vous passez de côté, ou ça va bien?
Enfin, je ne sais pas, peut-être que... Non, non, justement, ben, je ne sais pas pour eux en tout cas.
Est-ce que, pour parler un petit peu plus technique d'auteur, est-ce que, parce que c'est quelque chose qu'on, avec tout ce qui est série télé à l'heure actuelle, on parle beaucoup du cliffhanger comme un ressort vraiment efficace pour raconter des histoires. Est-ce que pour vous, c'est pas juste, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est pas juste une construction artificielle de suspense, ou est-ce que c'est une façon de vraiment bien maîtriser justement le sens de l'intrigue?
Non, je pense que la construction du suspense, elle est vraiment affaire de rythme, et de rythme de chaque livre. C'est-à-dire qu'on va avoir des très bons romans très oppressants ou très effrayants qui vont petit à petit installer des dispositifs et des informations qui, mises ensemble, constitue un contexte effrayant. On va avoir des romans qui vont commencer par une scène extrêmement marquante et dont on ne peut pas se défaire en définitive. L'information primordiale, elle est balancée dès le début. On sait qu'on a un tueur, un monstre, une pathologie en nous, quelque chose. La question, c'est toujours d'où on raconte l'histoire, de quel point de vue. Est-ce que c'est du point de vue de quelqu'un qui est effrayé, de quelqu'un qui est effrayant, ou de quelqu'un qui essaye de se mettre entre les deux, qu'il soit flic, détective, magicien, etc. Et puis après, la deuxième question, c'est quelles infos a le lecteur, et est-ce qu'il est en avance sur les personnages, c'est-à-dire, est-ce qu'il a davantage peur que les personnages parce qu'il en sait plus qu'eux? Ou au contraire, est-ce qu'il est en retard sur les personnages et que c'est par eux qu'il va découvrir le danger? Voilà. Moi, pour moi, quand j'écris un thriller, en l'occurrence un thriller fantastique, le suivant sera absolument pas fantastique. Mais c'est les questions que je me pose. Et après, savoir si dans cette logique-là, il va falloir adopter des chapitres courts avec un cliffhanger, avec des ruptures, des échanges de points de vue, c'est un peu la petite cuisine dont on va décider pour chaque histoire, à la fois en fonction d'une efficacité, mais aussi en fonction de ce qu'on veut faire. C'est pas la même chose de raconter une histoire du point de vue du type qui est effrayant ou du type qui est effrayé. Et du coup, l'histoire n'aura pas la même couleur du tout.
C'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que je réfléchis beaucoup à la technique narrative, sur le blog, dans les ateliers d'écriture, etc. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que, déjà, d'une part, en tant qu'auteur, on a un artifice génial qui s'appelle le personnage, tout simplement, et que si on arrive à avoir un personnage qui est vivant et qui va avoir peur, même si on n'a pas forcément peur soi-même, on va avoir peur pour lui. Ce qui déjà moitié de boulot de fait, quoi. Et bon, on a un personnage qui va plaire, il va pas forcément, il va pas forcément avoir une valeur d'identification. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait, quand on dit un personnage, il faut qu'on s'identifie. Non, non, il faut par contre qu'on sympathise avec lui. Déjà, si on prend le bon exemple de l'arachnophobie, c'est pas forcément parce qu'on est arachnophobe, mais si on a un personnage qui est arachnophobe avec lequel on sympathise, on va le lire, oh mon Dieu, il y a des araignées, le pauvre. Voilà, déjà, c'est le personnage de la librairie, le lecteur va ça devrait ressentir quelque chose.
Le lecteur qui dit « Oh, le pauvre », ça marche bien.
Oui, là, c'est, et c'est pas « Oh, le pauvre », c'est « Oh la vache, non, c'est trop moche ce qui lui arrive ». Alors après, sur la question du « procédé », entre guillemets, ce que je pense en écriture et ce que je sais passer en atelier, c'est que tout procédé n'est artificiel qu'à partir du moment où il est rappelé. Donc, dans la narration, dans une aventure, dans un roman, dans un récit, il y a une grammaire de base qui est ne serait-ce que le fait que il y a un bouquin, il y a des mots sur un papier, tout va se passer par le médium de l'écrit. C'est évidemment le plus basique. Mais il y a un certain nombre de règles dans la narration qui évoluent au fil des années. Alors, pas des règles justement, des principes ou des préceptes. La seule ligne directrice, c'est ce que Elisabeth Bonnardo dit très bien dans un des rares bouquins de technique narrative en français qu'on a, qui s'appelle « Comment écrire des histoires », elle dit « Quand entre un lecteur et un auteur, il n'y a qu'un seul pacte, une seule règle, le lecteur demande à l'auteur « Mens-moi et fais ça bien ». Donc, si on voit les ficelles, si on voit l'architecture, si on voit l'échafaudage de l'histoire, ça va sortir, le mensonge va être gros, ça va sortir le lecteur du truc. Si par contre, il y a un cliffhanger à toutes les pages, mais que « Oh la vache, c'est bien fait », et que le lecteur, peut-être qu'effectivement, si c'est un gros lecteur de thriller, il va voir le truc, mais il va faire « Non, mais bon, ok, d'accord, je sais comment ça... » Mais oh, je veux la suite. On s'en fout que ce soit artificiel. Le but, c'est que ça marche. Et si le mensonge marche bien, si c'est bien fichu... Autre parole de grand auteur qui est de Robin Hood, qui vient fréquemment aussi original, on lui avait posé la question dans une autre interview, on lui avait dit « Vos personnages, quand même, ont un côté archétypal. » Et elle avait dit « Je m'en fiche, dans un archétype, tout ce qui compte, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental qui parle à l'âme humaine. Et tout ce qui compte, c'est qu'un archétype ne devienne pas un cliché c'est un archétype qui est mal tourné. » Donc, voilà, processus technique narratif, peu importe, on a une énorme boîte à outils, on a une énorme même boîte à jouets, pour essayer de raconter l'histoire qui va nous prendre au trip d'abord en l'écrivant, et donc on espère que, parce qu'elle nous aura pris au trip, elle prendra le lecteur au trip aussi.
Là, vous voulez répondre à cette question? Also zu den Techniken habe ich gar nicht viel hinzuzufügen, also da bin ich absolut d'accord mit dem, was gesagt wurde. Ich persönlich arbeite mit allen Tricks, die ich finden kann, denn es muss funktionieren. Es ist ja kein großer Unterschied zum Erzählen, ob man schreibt oder ob man erzählt abends am Lagerfeuer. Es ist immer auf Effekt, man kann viele Techniken verwenden. Ich überlege mir vorher auch, wie viel gebe ich dem Leser mit? Sieht er durch die Augen meiner Figur? Weiß er genauso viel wie die Figur? Oder funktioniert die Angst anders, dass man weiß, was wird mit der Figur passieren und man bangt um die Figur? Das sind alles Sachen, die sind, ich persönlich plane die sehr genau und das dann auf dem Punkt eine Anekdote, dass ich sitzen muss zu erzählen.
D'accord. Avec tous les trucs que l'on peut, on peut jouer bien sûr de tous les trucs, de toutes les ficelles possibles. Le principal, c'est que ça fonctionne. Pour moi, je ne fais pas de différence quand j'écris. Il n'y a pas de différence entre le fait d'écrire et le fait de raconter une histoire le soir autour d'un feu de camp. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que le personnage. Si le lecteur sait autant de choses que le personnage, s'il n'en sait pas autant, le personnage a peur, si le lecteur aura la même peur. Voilà.
Gettinger disait à un petit déjeuner qu'elle était prête à tout pour les mots. Dans ce qu'elle écrit, et qu'elle était prête, y compris à tuer son personnage, à faire sortir l'histoire de la ligne. Est-ce que vous êtes prêt à tout pour faire peur? Parce que quand vous écrivez, est-ce que
Oui, je pense que tous les moyens sont bons pour arriver à nos fins, mais ça me paraît évident, parce que on est parfois même surpris soi-même quand on est en train d'écrire, c'est-à-dire qu'on ne fait pas aux états. Non, allez, là, ça, je ne le fais pas quand même. Ils ne vont pas marcher. Et en plus, si en général, ils marchent. Donc, Donc oui, je pense qu'il n'y a pas de scrupule à avoir pour arriver à transmettre ce qu'on a envie de faire passer, quoi.
Bah, moi, je crois que j'ai lu cette phrase dans le livre de Joël Dicker, La vérité sur la terre avec Hilaire, donc c'est un écrivain qui donne des conseils à un meuf. Et il dit à son élève écrivain que le don de l'écrivain, c'est pas de bien écrire. Le don de l'écrivain, c'est que dans ses livres, il n'a pas à se censurer de quoi que ce soit. Et en fait, quand on écrit un livre, pour répondre à votre question, on ne se censure pas. C'est la liberté totale, quoi. On n'est plus, c'est ce que j'explique à mes élèves souvent, parce que je suis professeur de français. L'écrivain qui écrit n'est pas l'homme, quoi. Il y a Stéphane Gérard, l'être humain, il y a Stéphane Gérard, l'écrivain. Et Stéphane Gérard, l'écrivain, il écrit peut-être des choses terribles, immorales, etc. Alors que dans sa vie, il est peut-être un peu normal quand même, quoi. Donc. Mais c'est ça qui est génial, parce qu'on peut se lâcher pour parler familièrement. Pour moi, un livre, enfin un thriller plutôt, c'est un peu un puzzle qu'on donne au lecteur. Et c'est à nous, écrivains, de voir quelle pièce on va lui donner et à quel endroit. Et à la fin, il faut que le lecteur ait fini son puzzle. En fait, nous, on est maître du jeu, quelque part. On joue avec le lecteur. Et ce que je voulais juste dire, après je vous redonne le micro, c'est que alors, chaque thème, c'est angoisse et suspense, peur et suspense. En fait, je crois que le suspense, c'est pas forcément faire peur. On peut tout à fait créer un suspense sans que le lecteur n'ait peur de rien, mais il a envie de savoir ce qui se passe. Mais sans forcément jouer sur la peur.
Moi, je suis d'accord. Hein. Le page turner, c'est pas forcément quelque chose qui fait peur. Fort heureusement.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Léviathan, c'est un thriller, parfait fantastique, l'hypnotisme, un peu fantasy aussi. C'est mon but premier et pas de faire peur. D'ailleurs, quand j'ai écrit j'avais cette histoire-là depuis longtemps, quand je l'ai envoyé à l'éditeur et qu'on a commencé à faire la sortie, il m'a dit c'est un thriller parce que dans le fond, il faut, etc. Et c'était pas une intention de ma part. Par contre, prête à tout pour faire peur, si c'est mon but, oui, prête à tout pour m'efforcer de raconter la meilleure histoire possible. Et pour que l'histoire soit vraisemblable et fonctionne. Si à un moment il faut qu'il y ait un personnage qui y reste, il va y rester. Si à un moment il faut qu'il y ait un personnage qui perd un bras, il va y rester. Mais le truc important, c'est prêt à tout pour que l'histoire fonctionne clairement et même au-delà. Et si à un moment il faut que mon personnage passe un sale quart d'heure parce que dans la logique de l'histoire, il est capturé par un psychopathe qui va lui faire des bricoles. Si le psychopathe se contente juste de lui dire bon, que je ne t'y reprenne plus, te promener dans la rue à 3h du matin tout seul. Si tu es allé, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur un. Voilà. Ou alors, j'écris pas le même genre de bouquin.
Les pratiques du thriller, quand même.
Voilà. mais par contre, là, pour le coup, parce que je veux, moi, le lecteur, je n'épargnerai rien au personnage, et à partir de là, j'épargnerai rien au lecteur non plus. Parce que
il est prévenu.
Ouais, parce que le but, c'est que c'est qu'on vive un truc et qu'on vive, et c'est pas une question de surenchère ni rien, c'est une question que on est là pour un long voyage dans un bouquin, et bah, il faut que le voyage soit mémorable, que le suspense soit présent, mais c'est pas une intention ultime vis-à-vis du lecteur, où je vais faire ça pour le lecteur. Oui, bien sûr, on le fait pour le lecteur, mais aussi c'est parce que l'histoire le nécessite et parce qu'il faut raconter cette histoire-là, parce que ces moments-là, les bons comme les mauvais, pour pas tricher avec l'histoire, et si on triche pas avec l'histoire, on triche pas avec le lecteur.
On a du coup un bon accès à ces questions de langage et de petites cases qu'on n'aime pas vraiment en fait sur les livres, mais ça me semblait intéressant de redéfinir que le thriller, vu le mot anglais thrill, c'était pas forcément faire peur, c'était garder en l'attention du lecteur en permanence.
Tout thrill, c'est frissonner. Donc le roman qui fait frissonner, enfin je sais pas, Pirates des Caraïbes, c'est pareil, quoi, ça fait frissonner parce qu'il se passe des trucs et c'est marrant, et voilà, ça fait frissonner. Et puis à un moment, il y a des zombies. Enfin, mais voilà, c'est le roman à suspense, et bon, personnellement, j'espère que tout me remonte.
Est-ce que, du coup, vous pensez pouvoir, certains d'entre vous le font, mais est-ce que vous pensez pouvoir faire peur de la même façon aux adultes et aux young adultes ou aux adultes et aux adolescents? Est-ce que c'est le même genre de ressort? Julie, peut-être sur cette différence?
Oui, ça je pense, oui, parce que de toute façon, la manière dont on distille les choses, elles marchent sous le lecteur. En principe, elles sont moins faciles de faire, parce que c'est ta manière de distiller l'information, de préparer le terrain aux événements les pires qui sont vraiment ceux qui sont vraiment vecteurs d'épouvante. Ça fonctionne pareil dans un livre pour les tout petits, dans un album sur un homme, une sorcière ou un. Je pense que les ressorts sont les mêmes et la manière de les amener, c'est là qu'on connaît son métier ou pas. C'est-à-dire amener les choses en douceur pour que ça fonctionne, quoi.
Est-ce que vous, Nina, vous êtes positionnée de façon différente en fonction d'un public visé, ou est-ce que, comme beaucoup d'auteurs qui le disent très souvent, hein, on n'écrit pas en fonction, en visant un public en particulier, on écrit pour que les gens aiment lire ce qu'on écrit. Mais est-ce que vous, ça vous arrive quand même de penser les choses différemment?
Je schreibe ja hauptsächlich für Jugendliche, also ich bin Jugendbuchautorin, und es ist schon ein Unterschied, also die Ängste, die ich zeige oder die ich bearbeite, sind dieselben. Aber die Art, wie die Hauptperson damit umgeht, ist ein bisschen anders. In einem Erwachsenenroman könnte ich einer Figur zumuten, dass sie eine wirklich komplette Hoffnungslosigkeit erlebt, dass der Schrecken sehr tief ist. Bei den jugendlichen Lesern behält meine Figur immer ein bisschen Hoffnung. Oder ein bisschen eine Stärke, die sie aus dieser Situation rausbringt. Einfach als Botschaft, es ist nicht ganz hoffnungslos. Das ist so eine ganz kleine Nuance, die man anders macht als jeden Buchautor. Aber sonst, der Schrecken, dasselbe.
Je suis en fait un auteur de livres de jeunesse. Je pense que les peurs sont les mêmes. La façon de montrer la peur du personnage principal est différente. Je crois que pour les livres adultes, on peut montrer une complète désespérance. On peut montrer vraiment une angoisse profonde. Alors que lorsque l'on écrit pour des adolescents, il faut qu'il y ait toujours de l'espoir, qu'il reste de l'espoir. C'est la nuance.
C'est intéressant parce que c'est une des définitions de la loi sur la littérature jeunesse en France, cette question de la désespérance de belle.
J'aime beaucoup ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est vrai, que les peurs remontent à l'enfance. Moi, très humblement, parce que j'ai pas écrit pour la jeunesse, mais quand j'essaye de susciter de la peur, quand je fais des nouvelles en fantastique, par exemple, pour le coup, on vraiment essaie, le but est de faire peur, vraiment une scène. Enfin, une nouvelle pour adultes, fantastique, où ça tourne autour d'un lion en peluche. Je pense que ces peurs-là de l'enfance, elles sont toujours là. On a juste mis du vernis à vivre par-dessus. Mais quand un adulte a peur, quand il est confronté à une situation profondément anxiogène, il redevient un enfant quelque part. Et en ce qui me concerne, quand j'essaie de susciter vraiment de la peur dans un récit adulte, à la base, je vais essayer d'aller chercher l'enfant et de le remettre dans cette situation-là. Et on n'a plus peur du noir, tout ce qu'on connaît à peu près globalement, même si les adultes, voilà, et loin de moi l'idée de justifier ça, parce que ça reste la peur de l'inconnu. On a tous moyen, quand on est seul dans une rue à 3h du matin, qui fait noir, on peut quand même avoir peur du noir parce qu'on n'a pas forcément peur du gros entacard, mais on a peur du tout qui peut nous attendre au point d'après. Donc, voilà, je pense, en ce qui me concerne, en tout cas, quand j'essaie de faire peur à un adulte, j'essaie d'abord d'aller là de laisser un enfant qui est dedans, qui est toujours là, et qu'on en perd autant qu'on peut, mais reste là.
Moi, je suis moyennement d'accord avec l'idée que toutes les peurs remontent à l'enfance.
Je pense qu'il y a une peur de l'inconnu qui est réelle, qu'on trimballe toute sa vie, mais je pense qu'il y a aussi une peur du connu. Dès lors qu'on sait que quelque chose a existé, on se dit que ça pourrait nous arriver, ou arriver à nos proches, ou arriver à notre société, etc. Il y a tout un tas de peurs technologiques, tout un tas d'angoisse, on va dire, de la foule, de la peur de ce que peut devenir une société, qui là sont des peurs qui supposent du connu, et qu'il y a des peurs qui ne sont pas des peurs de la petite enfance, mais des peurs de la découverte du monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Moi j'écris pour la jeunesse, je suis parfaitement d'accord avec Nina sur cette notion de garder un espoir, ce qui parfois, par rapport à ce que tu disais Stéphane, suppose de se censurer, parce que l'histoire irait jusqu'à une fin désespérante, mais que parce qu'on écrit pour de plus jeunes que soi, on va se reprendre en main. On va se dire, allez, la désespérance serait mon trait dans cette histoire. Ben, je vais essayer de trouver des raisons d'espérer même là-dedans. Et puis, moi, je trouve mon boulot d'écrivain aussi, c'est de refiler de nouvelles peurs aux jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont ces peurs ataviques de l'inconnu sur lesquelles on joue tous, mais si je peux leur rajouter deux ou trois peurs qui seraient plus adultes, si je peux alourdir un peu le truc, déjà, c'est intéressant. Ils auront de l'avance et quelque part, enfin, il me semble que l'écriture, je suis parfaitement d'accord avec toi, la peur, c'est pas le but quand on raconte une histoire. La peur, c'est le moyen éventuellement de l'histoire, mais on a une histoire à raconter. Si on a une histoire à raconter, c'est parce qu'on la trouve intéressante, parce qu'on aime nos personnages et qu'on a envie que quelqu'un s'y attache, parce qu'on a un contexte à raconter, et que si l'histoire est intéressante, qu'on veut raconter tel contexte, etc., ben on peut y glisser quelques infos un peu flippantes sur la suite, quoi. Hein?
Oui, bien sûr.
Ja, es hat mir sehr gut gefallen, dieser Gedanke, dass es diese Erwachsenenängste gibt, weil es stimmt, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist es nicht auch eine Angst der Erwachsenen, dass es vielleicht, dass die Zivilisation nur eine ganz dünne Lackschicht sein könnte, weil man weiß, was darunter liegen könnte, dass es diese Erwachsenenangst ist. Je trouve intéressant ce sont des peurs, des angoisses des adultes, et ne serait-ce pas parce que l'on pense que notre civilisation finalement est une toute petite couche qui se trouve en dessous des tas d'angoisses cachées.
Bon, bien, je crois qu'on vous a assez fait peur, ou pas. En tout cas, voilà, vous pouvez retrouver nos auteurs dans leur meilleur moyen pour raconter des histoires, avec ou sans peur, et surtout avec le sens du thriller et du suspense qui vous maintient à tourner les pages. Merci.
En chef d'une revue de science-fiction où on a trouvé et découvert de très très beaux textes, et je m'en souviens encore. Elle a été, encore parfois non, traductrice.